François Margolin, bonjour. Pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes documentaliste, vous êtes réalisateur de documentaires plutôt, excusez-moi, scénariste, producteur. Vous avez fait de nombreux films et l'un d'entre eux a défrayé la chronique il y a 2-3 ans et nous allons en parler en détail. Il s'agit du film Les Salafistes. En ce qui vous concerne, vous êtes une famille originaire d'Ukraine qui a été en partie exterminée dans la Shoah par balles. Vous avez fait vos études de cinéaste avec un maître du documentaire qui a été Raymond Depardon. Je pense que lui et aussi un autre homme qui est Claude Lanzmann, et nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors de l'enterrement de Claude Lanzmann, ce sont les deux hommes qui vous ont marqué le plus dans votre carrière, je pense.
Oui, c'est sans doute les deux personnes qui m'ont le plus appris. Depardon, parce qu'il m'a appris finalement à oser faire des documentaires, à oser aller au bout du monde, y compris seul, pour faire des choses que les autres ne voulaient pas faire. Et puis à travailler effectivement seul, avec une caméra, ensuite au montage, et à faire, disons, du cinéma autrement que la norme habituelle. Quant à Claude Lanzmann, c'est quelqu'un qui m'a appris, mais comme peut-être avec d'autres gens, ce qu'était l'éthique et la morale par rapport au cinéma. C'est-à-dire que être avec lui, c'était être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur par rapport à ce qu'on pouvait montrer, à ce qu'on pouvait dire et à ce qu'on pouvait présenter aux autres. Et donc, c'est pas que c'est une question de se faire taper sur les doigts par quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait une haute idée de la morale spontanément et qui, en même temps, était très drôle dans la vie, parce que sinon, on pourrait avoir l'impression d'un espèce de maître ennuyeux. Et j'ai eu la chance d'être son ami comme vous, je crois, et de passer beaucoup de temps avec lui, au moins les dernières années de sa vie. Et je veux dire, dîner avec lui ou le voir pour tourner des films comme j'ai fait, c'était tout de même absolument passionnant. Et finalement, c'est une des expériences les plus intéressantes que j'ai eues dans la vie avec effectivement Raymond Depardon, même si j'ai aussi rencontré d'autres gens. Extrêmement, qui ont beaucoup compté pour moi, mais disons dans les leçons de cinéma, je dirais c'est effectivement les deux personnages clés.
Alors, lorsque l'on regarde votre filmographie, on s'aperçoit qu'il y a des thèmes juifs, en particulier en 1983. Vous avez été voir l'un des premiers, d'ailleurs, c'était avant les opérations connues qui les ont amenés en Israël. Vous avez été voir ceux que l'on appelait à cette époque les Falachas, c'est-à-dire les Juifs éthiopiens. En 1983, il faut rappeler que l'Éthiopie c'était une terrible dictature, très très hostile à Israël, et vous avez apporté des documents qui ont été ensuite très largement utilisés, je crois.
Oui, parce que finalement je suis parti là-bas où presque par hasard, parce que je m'interrogeais moi-même sur mon judaïsme et savoir à quoi tenait le judaïsme et si c'était une question de couleur de peau, si c'était autre chose. Et j'ai eu l'occasion de partir là-bas, mais presque du jour au lendemain, grâce à une amie qui s'appelle Elisabeth Lanchner. Et on est parti là-bas sachant que c'était une dictature, moi sachant peu de choses sur eux, parce qu'à l'époque, effectivement, ils n'étaient pas vraiment reconnus par toute la communauté juive comme juifs, et ne sachant pas très bien où ils étaient. Et on est parti là-bas avec du matériel que d'ailleurs m'avait prêté Raymond Depardon, du matériel que j'avais caché, qu'on avait dissimulé dans plusieurs valises en la démontant la caméra. Et sur place, effectivement, j'ai découvert des gens incroyables, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans un dénuement le plus total, qui vivaient comme au Moyen-Âge, ici, sans doute, certaines communautés juives d'Europe centrale, qu'on accusait de tous les maux, et où existait un antisémitisme virulent. Et c'est ça qui m'a frappé, comment dans des villages perdus, où on accédait à cheval au fin fond de l'Éthiopie, on pouvait avoir le même antisémitisme que celui qu'on lisait dans les livres d'histoire sur l'antisémitisme en France ou en Europe centrale au Moyen-Âge. Donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est quelque chose qui m'a fait comprendre, non pas que les Juifs se faisaient haïr partout, mais par contre que les autres les haïssaient partout. Et les signes distinctifs que je voyais chez eux de leur judaïté étaient effectivement très complexes et très différents évidemment de ceux de ma famille. Mais par contre, je les trouvais plus religieux que moi. Donc je trouvais que finalement, ils étaient peut-être plus juifs encore que moi, bien que noirs et bien que, honnêtement, j'avais du mal à les distinguer d'autres Éthiopiens qui n'étaient pas de la même religion. Donc ça a été une, je dis pas la résolution, parce que je crois que être juif c'est essentiellement se poser des questions et c'est ne jamais les résoudre, mais disons que ça m'a fait avancer sur cette idée du judaïsme, et ça m'a sans doute permis de passer une étape suivante, passer à autre chose. Et c'est vrai que ce qui est arrivé, c'est que finalement ça reste aujourd'hui tout à fait par hasard, si on peut dire, le seul film qui existe sur les juifs d'Éthiopie, qu'on appelle Falasha, quand ils étaient en Éthiopie, parce que personne d'autre n'y avait été, personne d'autre n'avait réussi à ruser avec la dictature de Mengistu, et personne ne savait qu'il partirait un an ou un an et demi après.
Oui, c'est fascinant. Vous avez fait aussi un autre film sur les spoliations, qui s'appelle L'Antiquaire, n'est-ce pas ?
Oui.
Et puis, dans l'ensemble, les autres films que vous avez réalisés sont des documentaires durs, de périodes de lieux de guerre, de lieux de violence, que ce soit sur les talibans en 2001, je crois, que ce soit sur les enfants soldats en 2004. Et vous avez aussi interrogé les anciens de l'OAS, histoire interdite, c'est-à-dire ceux qui étaient responsables des attentats. Et puis, on arrive donc en 2016, où vous terminez ce film qui porte le nom de Salafiste au pluriel, et que vous avez réalisé avec un collègue mauritanien et qui a été, je crois, filmé en 2012. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce film ?
Alors, ce film qui s'appelle Salafiste, c'est un film qu'on a tourné sur 2 ans et demi. C'est-à-dire, on a commencé effectivement en 2012 au moment de l'occupation de Tombouctou et on a été les seuls à y filmer, alors que c'était très dangereux et totalement interdit, qu'il fallait faire 1000 km de piste depuis la Mauritanie pour accéder à Tombouctou. Donc l'idée était de montrer la vie quotidienne sous un régime salafiste, un régime djihadiste. Donc ce film, on l'a tourné pendant 2 ans et demi parce que ensuite, après cette période où on a tourné à Tombouctou, j'ai été voir des responsables de Al-Qaïda, des théoriciens du salafisme et du djihadisme, parce que je voulais comprendre ce qu'il y avait dans leur tête et comprendre ce qu'était ce salafisme et ce djihadisme et savoir d'où ils venaient, parce que j'avais l'impression qu'ici, en France, mais dans d'autres pays d'Europe, on avait trop tendance à considérer les terroristes, qui sont tous issus du salafisme, comme des gens fous, anciens dealers de drogue, des paranoïques, des échappés d'hôpital psychiatrique. Or, je savais depuis de nombreuses années, à cause des films dont vous avez parlé, d'avoir rencontré les talibans en Afghanistan dès l'année 2000, que c'est une idéologie, et que je voulais prouver que c'était une idéologie, que c'était pas seulement le fait d'individus isolés qui sur un coup de tête décidaient quelque chose. Non, le salafisme est quelque chose de très organisé, de très pensé, qui existe au sein de l'islam depuis Mahomet, ce qui veut bien sûr pas dire que tous les musulmans sont salafistes, et encore moins qu'ils sont terroristes, mais c'est une tendance de l'islam très ancienne, que d'ailleurs on retrouve de façon un peu différente, mais très importante, chez les wahhabites en Arabie Saoudite depuis 2 ou 3 siècles. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'intéressait parce que je trouvais qu'il était important de comprendre ce qu'il y avait dans leur tête Et je m'intéresse effectivement depuis toujours à ce qu'il y a dans la tête des méchants. Ce que j'appelle les méchants, j'ai peut-être des concepts un peu bêta et un peu enfantin, mais il y a les gentils et les méchants, et pas seulement les goy, il y a les gentils et les méchants. Et j'aime rencontrer, non pas parce que je les admire, les gens qui ont la méchanceté en eux, parce que ça vient sans doute effectivement de mon histoire et des massacres d'une partie de ma famille par les nazis. C'est comprendre qu'est-ce qui fait que des gens sont capables de tuer des enfants, des vieillards, sans aucune raison autre que leur idéologie.
Ça veut dire que votre analyse vient à l'encontre de ceux qui disent après un attentat tout cela n'a rien à voir avec l'islam, et elle va aussi à l'encontre de ceux qui disent une fois que les coupables sont trouvés, mais ils ont des problèmes psychologiques, c'est un schizophrène ou c'est quelqu'un qui est très déprimé et la société en est responsable. Alors il s'est produit quelque chose d'exceptionnel, c'est que votre film qui devait passer brutalement n'a pas a reçu un visa très limité de la commission ad hoc qui l'a immédiatement interdit au moins de 18 ans, ce qui l'a empêché de passer dans les chaînes de télévision, et ce qui était quelque chose d'absolument unique pour un film qui ne soit pas un film pornographique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement qui nous avait effectivement beaucoup étonné?
Oui, alors c'était 3 mois après les attentats du Bataclan, donc effectivement la période était un peu troublée, mais c'est aussi pour ça que les gens s'intéressaient au film et voulaient comprendre. Et ce film que Salafiste est quelque chose qui était c'était un documentaire qui était pour la première fois depuis 1962, un documentaire pour le cinéma qui se trouvait interdit. Le dernier ayant été un film de Jacques Panigel sur les Algériens qu'on jetait à la Seine, et c'était en 1962. Donc ce film s'est retrouvé interdit au moins de 18 ans, avec avertissement, effectivement, comme un film pornographique, parce que des gens avaient jugé au CNC, à la commission qui s'appelle la commission du visa, mais qui revient à une commission de censure, que le film devait être interdit, et même les représentants des ministères de l'Intérieur et de la Justice qui se trouvent au sein de cette commission avaient voulu non seulement l'interdire totalement, mais aussi nous mettre en examen pour apologie du terrorisme, ce qui était tout de même hallucinant. Et des représentants d'organisations de réalisateurs qui, au sein de cette commission, avaient réussi à obtenir une peine minimale qui était, si je puis dire, l'interdiction moins de 18 ans et avertissement, mais ce qui avait comme conséquence, un, de foutre en l'air en gros la carrière du film en salle, mais aussi d'empêcher effectivement le passage à la télévision. Or, ce film était un film qui est essentiel à voir, à mon avis, pour dans les collèges, dans les lycées, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important de montrer pour que les gens ne voient pas que les images qu'il y a sur Internet, pour qu'ils comprennent que c'est un discours qui est cohérent et que c'est un discours que, malheureusement, il faut combattre.
Alors, on se retrouve devant cette situation extraordinaire que votre film est attaqué d'une part par certains qui prétendent que c'est un film qui fait l'apologie du terrorisme parce qu'il présente des images d'amputation de la main ou des images de violence, et d'autres qui prétendent que ce film est un film islamophobe. On se retrouve avec les deux, avec deux options qui sont complètement contradictoires. Et ce qui est également étonnant, c'est que après cette première interdiction en 2016, et alors qu'un tribunal administratif ensuite vous donne raison, le jeu est repris par le ministre de la Culture suivant, et en fin de compte, cela a duré pendant 3 années, jusqu'au moment où, il y a 1 mois, 2 mois, le Conseil d'État a finalement donné l'autorisation à ce film de paraître sans aucune interdiction. Alors, comment est-ce que vous voyez ces 3 années qui sont quand même stupéfiantes? Lorsque l'on connaît votre histoire, on ne peut pas vous soupçonner de faire l'apologie du terrorisme. Et quand on a vu le film, je l'ai vu, dire que ce film fait l'apologie du terrorisme est quand même quelque chose d'incroyable.
Mais si vous voulez, je pense que le film dérange. Le film dérange pour, en particulier en France, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on essaie de dire que les terroristes ne sont pas des musulmans. Or, je crois qu'on ne peut pas voir ce film sans penser à la fin que les terroristes sont des musulmans, et que les salafistes sont des musulmans, que les djihadistes le sont aussi. Ce qui veut dire, encore une fois, je le répète, que tous les musulmans ne sont pas comme ça. Mais par contre, c'est ça qui dérange, parce qu'on essaye tout le temps, encore aujourd'hui, enfin, ce week-end, il y a eu un attentat à Lyon, et on essaie d'expliquer que c'est, on n'est pas sûr du tout que c'est un islamiste. Mais qui pose des bombes aujourd'hui dans les rues, statistiquement, en Europe occidentale et même dans le reste du monde, si ce n'est les islamistes? Donc on refuse de mettre des mots sur des choses qui se passent, et c'est ça, c'est contre ça que va ce film. Et ce qui est effectivement très drôle et presque kafkaïen, c'est de se retrouver accusé de choses totalement contradictoires, de même que lorsque le film est sorti, on s'est retrouvé à la fois accusé d'être pro-djihadiste, et en même temps les salles étaient intimidées, on leur disait il va y avoir des attentats dans votre salle, donc faites venir des policiers pour protéger contre les bombes des islamistes. Donc c'était deux choses totalement contradictoires. Et je suis très content que le film soit aujourd'hui libéré, si on peut dire, et qu'on ait gagné enfin au Conseil d'État, parce que je sors d'une période, si je puis dire, presque humiliante pour moi d'avoir été accusé de ces deux choses, parce que c'est le contraire de ce que je suis, de mon histoire et de l'histoire de ma famille. Et je pense que les arguments qui ont été repris au Conseil d'État sont, pour revenir sur Claude Lanzmann, sont exactement ceux qu'avait donné Claude Lanzmann pour défendre le film dans une tribune assez célèbre dans le journal Le Monde, et où il disait qu'au contraire, il fallait non seulement pas l'interdire, mais le montrer partout, parce que c'est important de montrer ce film pour qu'on comprenne ce que c'est que le terrorisme et le salafisme. Et si on veut justement que la communauté musulmane ne vire pas dans cette tendance, il faut appeler les choses par leur nom et montrer ce que ces gens ont dans leur tête.
Bien, François Margolin, il ne reste plus qu'à espérer que ce film va effectivement passer en salle et surtout à la télévision désormais, et que les gens le verront. C'est un film extrêmement intéressant, et je vous remercie de tout ce travail que vous avez fait tout au long des années pour montrer la réalité de la violence dans le monde et le fait que nous sommes, nous peut-être, trop à l'abri dans nos sociétés très protégées, que nous ne savons plus reconnaître un ennemi et que nous avons tendance à considérer que cet ennemi ne peut pas être un ennemi et qu'il est probablement donc un malheureux, un psychopathe ou un laissé pour compte de la société.
Merci beaucoup et je partage cette opinion. Merci.